France Info.
Bonsoir, bienvenue dans les informés de France Info, votre émission de débat et d'opinion sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag les informés également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, c'est heureux de l'été hein, qu'ils se sont présentés sifflotant un air de reggaeton, en s'aspergeant d'anti-moustiques. L'un d'entre eux est même venu avec ses brochettes, hein, parce que les beaux jours donnent de drôles idées. Ce soir, les informés de France Info reçoivent Aurélie Motarivé. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes communicante, maître de conférence à Sciences Po. Éric Métou, bonsoir,
bonsoir,
de L'Express. L'entrepreneur Charles Becbédé, bonsoir.
Bonsoir.
Et également Audrey Goutard, bonsoir,
bonsoir,
de la rédaction de France Télévisions. Et ce soir, Laurent Wauquiez, seul avec lui-même, 80 km/h, la fronde éternelle. On parlera également, bien sûr, de la décision de Donald Trump hein, de signer un texte pour éviter la séparation des familles de migrants. Mais pour l'instant, dans les informés de France Info, c'est l'heure de notre premier débat. Alors quoi qu'on en dise, ce mouvement de grève contre la réforme de la SNCF restera dans les annales par son originalité. Au début du conflit, tous s'attendaient donc à une chose un peu classique. Et finalement, ce fut une grève perlée. Aujourd'hui, alors que le front unitaire s'est disloqué depuis le retrait de l'UNSA des actions après le 28 juin, la CGT a expliqué comment elle allait procéder dans sa poursuite de la colère au cours de l'été. Ce sera donc, selon la CGT cheminots, un appel régulier, voilà, à la grève. Hein. Les dates seront dévoilées au fur et à mesure de l'avancée ou non des négociations. Les journées de grève pourront être calées sur les départs en vacances, mais ne le seront pas exclusivement et majoritairement. Voilà. Bon, au moins, c'est innovant. On va écouter avec plus de précision Laurent Brun de la CGT Cheminots.
Au-delà du 28, nous allons décider de nous le calendrier et la modalité que nous allons appliquer, puisque de toute façon nous restons dans l'idée qu'il faut que les cheminots poursuivent la bataille par rapport aux engagements qui leur sont encore nécessaires. Nous espérons que les positions des uns et des autres changeront d'ici le 28. Et puis nous sommes aussi persuadés que sur le terrain, un certain nombre de cheminots resteront dans la mobilisation, même si les organisations syndicales ont des appréciations et des positions différentes.
Pour qu'on comprenne bien, vous êtes prêt à y aller seul?
On est tout à fait prêt à y aller seul.
Voilà, Laurent Brun de la CGT Cheminots au micro de Raphaël Ebenstein. Audrey Goutard, y aller seul, il y a l'intérêt? Est-ce que c'est possible?
C'est une façon de se démarquer, évidemment. C'est en même temps, est-ce qu'ils peuvent se permettre de dire autre chose? C'est vrai que leur positionnement de ces dernières semaines et depuis le début du conflit est un positionnement assez jusqu'au boutiste. Même si la loi est votée, est compliqué aujourd'hui de se dédire. Après, effectivement, il y a les Français. Et pour le moment, les Français, même s'ils ne soutiennent pas majoritairement la grève, n'ont pas été non plus très, très contre. Il va falloir donc effectivement se positionner. Les vacances arrivent.
Et Charles Becbédé?
Bah, écoutez, il faut savoir terminer une grève, disait Thorez. Donc il y a un moment, c'est incompréhensible, mais vous avez raison, c'est aussi parce qu'il y a des élections syndicales dans la fonction publique en novembre. Donc là, on est un peu dans la gesticulation. Mais c'est fait, c'est fini. Là, l'État reprend 40 milliards d'euros de dette de la SNCF. On passe du statut à une convention collective. Des négociations sont en cours sur la convention collective.
C'est pour ça aussi qu'il y a une pression aussi.
Oui,
c'est ce qu'ils disent. C'est-à-dire qu'il y a un moment, la loi est peut-être passée, en effet, à l'Assemblée et au Sénat, mais il y a une convention collective sur laquelle ils peuvent peser.
Absolument. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a certains postes où qui vont se retrouver avec des meilleures rémunérations dans le cadre de la convention collective que dans le cadre du statut. Donc maintenant, je crois qu'il faut... Alors, la grève pendant l'été, franchement, il y a un moment, il faut arrêter. 58% des Français sont vraiment contre. C'était le sondage IFOP là, du JDD, donc maintenant, il faut arrêter.
Éric Métou, c'est vrai que c'est un impact... Alors, la CGT Cheminots dit que ça n'impacterait pas les départs en vacances, mais ça sera pendant les vacances. Et on prend le train aussi autrement que pendant les grands départs. Est-ce que c'est au risque d'être impopulaire?
Oui, c'est pas pendant les départs en vacances, c'est pas pendant le premier week-end de départ en vacances.
Ouais.
Enfin, ça peut tomber n'importe quand pendant les autres week-ends de départ en vacances. Donc ça, c'est pas le sujet. Le risque d'être impopulaire, je pense qu'elle est déjà impopulaire, cette grève. Et pas tellement parce qu'elle gêne les gens, mais parce que plus personne ne comprend pourquoi ils la font, quoi. Enfin, je veux dire, faire une grève, c'est un droit. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est légitime. Mais après, pourquoi ils font grève? Enfin, c'est quoi l'objectif, là?
Donc, on passe en vue. C'est mouvement idéologique, lui. Il dit que c'est idéologique.
Voilà. Après, dans les raisons qu'il y a, revenir sur la loi. C'est plus possible. Le gouvernement a été ferme, il reviendra pas dessus. La convention collective, est-ce qu'il faut faire une grève pour négocier une convention collective? Je sais pas. Après, il y a deux autres raisons qui, moi, me paraissent plus plausibles et qui seront jamais populaires auprès des usagers, des Français. C'est effectivement, une raison politique. C'est-à-dire, on va emmerder Macron et puis on va faire en sorte qu'il fasse pas son boulot comme il a envie de le faire. Et la deuxième, c'est encore pire, c'est les élections professionnelles en septembre. Et grosso modo, on va montrer nos bras parce que les cheminots, ils vont voter pour nous. Franchement, c'est indéfendable, oui. L'une comme l'autre.
Aurélie Motarivet, sur ce prolongement pendant les vacances qui pourrait arriver.
Je pense effectivement qu'il faut trouver le juste équilibre, comme vous le disiez, entre l'enjeu de positionnement et l'impopularité. Et là, on voit qu'on est à la limite de l'exercice. Mmh. Et surtout, je pense que plus largement, les corps intermédiaires, comme les dirigeants d'entreprise d'ailleurs, doivent aujourd'hui se réinventer. On voit bien qu'on a un véritable sujet de réinvention avec les nouvelles générations pour être plus percutant, pour être plus représentatif. Et donc, il y a un véritable sujet de plus être descendant, faire, pour reprendre la lexicologie Macron, mais du bottom-up et pas du top-down. Enfin, il y a plein de choses à réinventer et je pense qu'il n'échappe pas à cette disruption.
Oui, c'est ça. Alors, en effet, alors là, il y a un ensemble de mots macronistes.
Pas mal, hein,
exactement. Là, vous avez compilé. Charles Becbédé, est-ce que c'est vrai que... est-ce qu'ils ont gagné quelque chose aussi dans cette grève? Parce que il y a le sac à dos social, il y a d'autres choses. Mais est-ce que les syndicats, comment ils en sortent de cette mobilisation?
Ben en fait, moi, je trouve que ça renforce les syndicats réformateurs.
Donc la CFDT,
la CFDT, dans cette histoire, sortent un peu les gagnants, il me semble, parce que c'est eux qui portent principalement cette négociation de la convention collective. Ils ont l'air plus constructif, et ouais. Puis, si ce mot n'était pas connoté. Ouais. Et puis, je trouve que la CGT Sud apparaît un peu arc-boutée, un peu archaïque, et c'est gênant, on va voir. Alors, évidemment, c'est une gesticulation, je trouve, on n'en sort pas.
Ouais, Audrey Goutard.
Ce que je trouve intéressant, c'est lorsqu'on écoute, y compris la CGT, y compris Sud, c'est la reconnaissance que la grève perlée n'a pas fonctionné. Mmh. Que le système, en tout cas, le principe d'une grève perlée ne fonctionne pas.
C'est-à-dire qu'au début, ça avait marché.
Au début, ça avait marché, effectivement. Ensuite, ça s'est essoufflé. Aujourd'hui, on est à 11% de grévistes, pas plus. Et là, en reproposant cet été une grève beaucoup plus traditionnelle, donc en fait des jours de grève organisés, etc., c'est le renoncement à ce système de la grève perlée.
Alors, on va continuer à en parler. Dans un instant, l'info à 20h10, Stéphane Milhomme.
La démission du responsable du SAMU de Strasbourg quelques heures après la publication de l'enquête administrative suite au décès de Naomi Muzenga. La jeune femme est morte en décembre dernier, faute d'avoir été prise en charge à temps. L'enquête de l'IGAS confirme qu'en ne prenant pas au sérieux son appel, l'opératrice a fait perdre du temps au secours. La mise en examen de l'ancien garde des Sceaux, Jean-Jacques Urvoas, il est poursuivi pour violation du secret de l'enquête par la Cour de justice de la République. Jean-Jacques Urvoas est soupçonné d'avoir transmis au député Thierry Solaire des informations sur une enquête pour fraude fiscale le concernant. Donald Trump annonce qu'il va signer un texte pour éviter la séparation des familles face à l'immigration illégale. Sa politique a déjà conduit à la séparation de plus de 2000 enfants mexicains de leurs parents. Et avant cette annonce, la Chambre des représentants annonçait qu'elle voterait demain pour stopper ces séparations familiales. Autolib pourrait s'arrêter dans les tout prochains jours. La directrice de la mobilité au groupe Bolloré, Marie Bolloré, le déclare ce soir sur France Info. Le syndicat Autolib Vélib se réunira demain pour décider d'arrêter ce système de voitures électriques en autopartage dans Paris et son agglomération. Reste maintenant à préciser le montant des indemnisations et le devenir des 250 salariés. Et puis le mondial de foot avec depuis une dizaine de minutes l'Iran face à l'Espagne. L'Uruguay rejoint la Russie dans le camp des premiers qualifiés pour les huitièmes de finale. L'Uruguay plus fort que l'Arabie Saoudite cet après-midi 1-0.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, y aura-t-il des perturbations ferroviaires pendant la grande migration estivale vers les plages, les campagnes, les montagnes également, hein, c'est ce qu'on appelle les vacances en fait tout simplement, et parce que la CGT aujourd'hui a expliqué qu'elle allait continuer en juillet et en août, mais alors ça sera un appel à la grève dont les dates seront dévoilées au fur et à mesure. Les journées de grève pourront être calées sur les départs en vacances, mais pas exclusivement. Juste pour terminer, Éric Métou, la même question que je posais tout à l'heure, est-ce que dans ce conflit qui a été long, hein, qui a été plus long même que 95, les syndicats ont gagné tout de même quelque chose?
Non, rien du tout. Les réformateurs, pas plus que la CGT ou Sud. Je pense que, enfin, après, on peut pas préjuger d'un résultat du résultat d'un vote comme ça, mais je pense que c'est eux qui vont sortir vainqueurs du vote des élections professionnelles de septembre. Ils ont effectivement la majorité des cheminots derrière eux et la majorité des employés de la SNCF. Le problème, c'est que cette grève qui était présentée au départ comme une grève de défense de la SNCF, c'est-à-dire notamment des usagers dans une entreprise qui marche pas, en fait, c'est une défense corporatiste, encore une fois, tout à fait légitime.
Alors, eux, ils disent du service public.
Le service public de la SNCF tel qu'il est aujourd'hui, le service public, donc le service du public, ça fonctionne pas. Donc je peux On peut pas dire si la réforme va améliorer les choses ou pas. Moi, je pense que oui, mais c'est possible qu'on se plante. Mais en tout cas, ce qui existe aujourd'hui est difficilement défendable, y compris par les syndicats. Donc, c'est pas la défense du service public, c'est la défense des fonctionnaires, des employés du service public de la SNCF.
Audrey Goutard.
Au-delà des résultats même, il y a quand même une chose intéressante à noter, c'est que aujourd'hui, on le voit dans les manifestations, c'est lorsqu'on voit tous ces jeunes gens en noir, on appelle ça les Black Blocs, etc. C'est que la contestation traditionnelle qui passait par des syndicats, etc., aujourd'hui, elle est plus extrême et elle passe par d'autres biais. Et je pense que lorsque une grève se termine par telle division au sein même des différents syndicats, effectivement, eh bien, on donne la part belle aux plus extrémistes.
La faute des syndicats. Effectivement, la contestation, elle passe ailleurs que par les syndicats. Il faut pas non plus exonérer les syndicats de leur responsabilité dans le fait que ça passe ailleurs.
Éric, certains vont vous dire aussi, c'est aussi parce que c'est vrai qu'Emmanuel Macron ou le gouvernement n'aiment pas trop les corps intermédiaires, et on voit bien que sans corps intermédiaires, il n'y a plus de maîtrise aussi.
Ces corps intermédiaires-là, je comprends qu'ils ne les aiment pas.
Vous savez, il y a aussi un problème, c'est que le taux de syndicalisation en France est extrêmement faible, dans le public et dans le privé, plus encore dans le privé que dans le public. Donc on a un vrai problème quand on compare à d'autres pays...
L'Allemagne, par exemple.
L'Allemagne, il y a un taux de syndication beaucoup plus fort. Et du coup, ça pousse à mieux négocier.
Mais pourquoi les syndicats sont faibles?
Allez, on aura en tout cas l'occasion, bien sûr, d'y revenir quand on en saura un peu plus sur ce calendrier de grève par la CGT Cheminots. On va parler maintenant d'un mouvement qui n'est pas qu'européen, même si on en parle beaucoup au niveau européen, mais il est mondial, ce mouvement des migrations. Parce qu'en ce moment, il y a des images terribles, vous savez, qui arrivent des États-Unis avec ces enfants mis en cage après l'arrestation de leurs parents sans papier. C'est une émotion puissante qui nous a même montré que la première dame américaine existait, puisque Melania Trump a critiqué cette politique que son mari justifie ainsi, Donald Trump.
Nous voulons résoudre ce problème. Nous voulons régler le problème de la séparation des familles. Je ne veux pas que des enfants soient séparés de leurs parents, mais quand vous poursuivez des parents qui sont rentrés illégalement, ce qui devrait arriver, vous devez enlever les enfants.
Voilà, ça c'est Donald Trump hier soir. Et depuis, il a annoncé aujourd'hui qu'il allait signer un texte pour éviter la séparation des familles de migrants ayant franchi illégalement la frontière avec le Mexique. Je cite le président américain, « Nous voulons garder les familles ensemble, je signerai quelque chose ». Voilà, c'est son terme, bientôt. Aurélie Motarivé, c'est vrai que ce système de tolérance zéro mis en place depuis le mois d'avril, c'est vrai qu'on a peut-être découvert ça, voilà, les images sont effrayantes.
Oui, c'est terrible, on est complètement dans l'émotion, et d'ailleurs le revirement de Donald Trump est intéressant sur le plan de la communication, c'est qu'il s'est rendu compte, je pense, qu'en termes d'émotion, c'était impossible de rester sur cette ligne, et donc il faut toujours trouver l'équilibre entre humanité et autorité. Ce que je trouve intéressant, peut-être avant de parler de Donald Trump, c'est de parler de l'Europe à ce sujet-là.
On va en parler dans un instant avec ce mini-sommet, mais je vous en prie.
Mais ce que je trouve intéressant, c'est que c'est un sujet majeur en fait pour l'Europe, et c'est presque une opportunité d'une certaine manière. Et on voit d'ailleurs que le couple franco-allemand, on a une sorte de retour du couple franco-allemand avec Merkel et Emmanuel Macron. Et finalement, ça a reboosté ce couple franco-allemand parce que c'est un sujet majeur qui ne peut se régler qu'à l'échelle européenne. C'est donc une opportunité. Et d'ailleurs, on pourrait être un peu cynique en disant que c'est une forme d'opportunisme, puisque sur le plan de l'Aquarius, on ne répond pas au plan national. Et en revanche, on y répond au plan européen. Donc ça peut être aussi une déviation, mais c'est une opportunité de rebooster, je pense, l'Europe et le couple franco-allemand.
On va en parler dans un instant de l'Europe, mais Audrey Goutard, sur ces images, en effet, sur la titre de Donald Trump, tolérance zéro. Est-ce qu'à votre avis, aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, ça peut inspirer aussi certaines personnes, et même si ce sont des enfants séparés, c'est pas grave.
Bien sûr, parce qu'en fait, tout ça est un grand aveu de faiblesse. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les États n'arrivent pas à gérer ce qu'ils considèrent comme une agression, dans l'esprit de Donald Trump et de son électorat et d'une grande partie des Américains, effectivement, on a vu les mères de famille, Madame Bush, les anciennes premières dames et la première dame réagir avec leur cœur et leurs sentiments. Mais dans le fond, les Américains, et majoritairement, lorsqu'on regarde les sondages, etc., considèrent que la politique de Donald Trump, qui consiste à créer un mur, à empêcher les Mexicains de rentrer, etc., sur le territoire, en tout cas les clandestins, c'est une politique qui est soutenue. Donc, il ne faut pas se tromper. Il y a une image qui choque, qui est effectivement évidemment choquante. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est de voir que Donald Trump utilise quand même ces images horribles pour renvoyer les démocrates dans leur corde en leur disant mais attendez, c'est de votre faute, c'est vous qui bloquez tout. Et puis les Mexicains en disant c'est de votre faute, c'est vous qui ne voulez pas financer notre mur. Donc voilà, finalement il arrive à toucher ses électeurs.
Charles Béguédé.
Non, mais évidemment, c'était impossible de pas opérer ce revirement. Mais pour autant, lutter contre l'immigration illégale est légitime. Et il a été élu pour ça. Hein. Trump, faut pas oublier, c'est
lutte contre
les flux migratoires et moins d'impôts.
Non, mais je vais vous dire quelque chose. En France, par exemple, en France, en effet, il y a aussi des enfants, mais qui ne sont pas séparés de leurs parents. Là, ce qui choque, en fait, c'est cette séparation des cages. Les images sont assez folles. Et donc, à partir de là, est-ce que vous pensez que tout le monde, enfin, est-ce que Donald Trump s'en est servi également pour mettre ses arguments en avant, c'est-à-dire sur les démocrates contre les Mexicains?
Mais il est très fort, Donc, il change de pied d'épaule, il décide ça. Ben oui, je pense qu'il l'a bien fait. Maintenant, est-ce que c'est quelqu'un qui va dans les détails? Non, parce que là, on le dit, ça existe depuis avril. Tout d'un coup, on le découvre. Lui aussi, lui le premier.
Oui, ben c'est ça qui est un peu inquiétant. Alors, aussi, Eric Metoux, Donald Trump, on se souvient, là on va parler de l'Europe, mais il a pris l'Allemagne en exemple, hein, avec des fausses informations sur l'Allemagne, sur la délinquance. Vous pensez que Donald Trump, aujourd'hui, par ce système de tolérance zéro, peut influencer, devenir un modèle pour certains sur cette lutte contre l'immigration illégale?
Je pense qu'il l'est déjà. Je pense qu'il est, notamment en Allemagne, et pas seulement de l'extrême droite allemande, mais de la frange la plus à droite de la majorité d'Angela Merkel, du ministre de l'Intérieur notamment. Je pense que c'est en train de devenir, et c'est ce qu'il veut faire, c'est en train de devenir un modèle pour des gens comme Orban en Hongrie, toute l'extrême droite française le porte au pinacle, et le porte au pinacle pas sur sa politique commerciale, sur sa politique économique, le porte au pinacle pour une seule raison, c'est son discours sur les immigrés. Oui, effectivement, un type qui dit je vais faire un mur et je vais empêcher les immigrés de rentrer chez moi, ce qui est totalement irréaliste, et tout le monde, la moindre personne qui s'intéresse au sujet le sait, mais ça fonctionne formidablement bien, et ça fonctionne pas uniquement auprès des partis ou des leaders de partis, ça fonctionne auprès d'une grande partie de l'opinion publique. C'est ça qui est inquiétant.
De toute façon, on le voit déjà, les Danois, les Autrichiens, donc qui sont gouvernés par des coalitions de conservateurs et d'extrême droite, on propose déjà la création de camps de réfugiés qui sont de ce type, du type que ceux qui ont été installés à la frontière mexicaine. Donc de toute façon, le système, il va exister en Europe et dans certains pays. Après, c'est là où on voit que c'est un combat de titans entre deux visions de l'immigration, deux visions de la gestion de l'immigration, puisque c'est une gestion.
Dans un instant, on va parler de l'Europe, l'info à 20h20, Stéphane Milhomme.
Et deux semaines après la mort d'un petit garçon de 4 ans dans un accident d'ascenseur, c'était dans un centre commercial à Argenteuil dans le Val d'Oise, un rapport d'expertise pointe des défaillances techniques. C'est une information de France 3 ce soir qui précise que la famille du petit garçon entend maintenant porter plainte. La démission du responsable du SAMU de Strasbourg quelques heures après la publication de l'enquête administrative suite au décès de Naomi Muzenga. L'enquête de l'IGAS confirme qu'en ne prenant pas en sérieux son appel, les secours ont perdu ensuite près de 2h20. Cette jeune femme est morte en décembre dernier, faute d'avoir été prise en charge à temps en contactant le SAMU. La CGT Cheminots appellera régulièrement à la grève en juillet et en août à la SNCF, à commencer par les jours de départ en vacances des 6 et 7 juillet. La confirmation sur France Info du secrétaire général Laurent Brun après une réunion des militants sur la suite à donner au mouvement contre la réforme ferroviaire. Laurent Wauquiez a eu tort de limoger Virginie Calmels pour 6 Français sur 10. L'enseignement principal du sondage France Info Le Figaro par Odoxa Dengtsu Consulting. 7 Français sur 10 trouvent, après cette querelle interne, que le président des Républicains n'est pas suffisamment rassembleur. Et puis 6 projets éoliens verront bien le jour sur les côtes françaises. La confirmation d'Emmanuel Macron cet après-midi en Bretagne. L'accord modifié permet à l'État d'économiser sur la période 15 milliards d'euros d'argent public. Après ses constructions dans le Calvados, Loire-Atlantique, Seine-Maritime ou encore les Côtes d'Armor, une mise en service attendu à partir de 2021.
France Info. 20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, c'est toujours la même question, mais à quoi cela va servir aujourd'hui? La Commission européenne a annoncé la tenue dimanche à Bruxelles d'un mini-sommet pour parler asile et immigration avec, je cite, les pays qui le souhaitent. Emmanuel Macron a confirmé sa présence et pourrait y croiser ses homologues allemands, autrichiens, italiens, bulgares, espagnols et grecs. Et vu la tension de ces derniers jours autour de cette question, on imagine un sommet très loin du compagnonnage. Hier, la chancelière allemande et le président français ont demandé une réponse européenne sur le sujet, un avis assez peu partagé par les pays de l'Est de l'Union, voire certaines contrées du Sud. Alors, est-ce que c'est utile ce sommet? C'est vrai qu'Aurélie Motarivet, les divergences sont telles concernant l'accueil des migrants. Qu'est-ce qui peut sortir de ce sommet?
Je pense qu'on est précisément dans une posture de communication, on le disait tout à l'heure, puisque on voit bien qu'au plan national, on n'a pas vraiment de réponse à apporter. On l'a vu avec Aquarius il y a quelques jours. Et donc, il faut trouver une réponse au niveau européen, plus humaine. C'est la seule échelle qui est finalement pertinente pour répondre au sujet de façon efficace. Mais je pense pas qu'on arrive à quelque chose en soi. C'est pour moi une opération, finalement, c'est un symbole très fort, un changement de posture, d'une certaine manière, du couple franco-allemand, je le disais tout à l'heure, avec finalement Emmanuel Macron qui se range derrière le couple franco-allemand. C'est très intéressant par rapport à Aix-la-Chapelle. On se souvient qu'il donnait des leçons à Angela Merkel à ce moment-là, qu'il comptait l'Europe à Angela Merkel, et là on n'est plus du tout dans ce logiciel-là. Et donc je crois que ce qui se joue surtout dimanche, c'est en fait l'avenir de l'Europe.
Charles Bébédé, voilà, est-ce que c'est l'avenir de l'Europe? Parce que certains disent, parlent de moment historique, une sorte de croisée des chemins pour l'Europe.
Oui, c'est vrai, et ça peut bien terminer si les dirigeants européens entendent la colère des peuples européens et notamment cette volonté de maîtriser les flux migratoires. Il ne s'agit pas de les arrêter brutalement, mais de les maîtriser. C'est une demande qu'on voit s'élever partout.
Et pourtant, Charles Bécbédé, on a l'impression que certains, en effet, ne maîtrisent pas, mais certains les maîtrisent très bien pour ne pas accueillir. Regardez, par exemple, la France. Oui. On accueille, il y avait un quota qu'on n'a pas respecté. Et aujourd'hui, par rapport à l'Italie et la Grèce, eux, en effet, ne maîtrisent pas.
Oui, et en même temps, on a accueilli 370 000 étrangers sur notre territoire l'année dernière. Donc, on ne peut pas dire. Oui, c'est vrai, sur les quotas, vous avez raison. Sur le fameux quota. Mais en nombre, en revanche, on ne peut pas dire qu'on n'accueille pas, on accueille beaucoup, l'Europe accueille énormément, mais les peuples européens demandent stop, demandent une pause. Et écoutez, les Italiens, les Autrichiens, je ne parle même pas du pacte de Visegrad, l'Autriche, la Pologne, etc., l'Europe centrale et orientale, mais maintenant l'Allemagne aussi. Donc en effet, c'est vrai qu'il peut y avoir un tournant historique ce dimanche, intéressant, c'est-à-dire disant, écoutez, vous avez entendu aussi la conférence de presse
Emmanuel Macron et Angela Merkel n'ont pas du tout cette vision-là, justement. Je pense qu'eux, ils appellent à plus de solidarité pour plus d'accueil.
Oui, mais pourtant, Emmanuel Macron a dit, lorsqu'il était avec, comment il s'appelle, Giovanni Conte, il a dit, une immigration restreinte au droit d'asile, à l'asile, et puis des hotspots dans les pays d'origine et dans les pays de transit. Si on arrive à ça dimanche, et une décision, un discours homogène de tous les dirigeants européens, je vais vous dire, on aura fait un grand progrès.
Vous y croyez, Audrey Boutard?
Non, mais alors, appuyer sur la touche pause et se dire, on fait une petite pause et on réfléchit et après on est, ça ne marchera pas, ça n'existe pas, c'est pas comme ça que ça marche. En revanche, je pense que là où cette réunion va fonctionner, sur la remise en question du règlement de Dublin. Vous savez, ce règlement de Dublin, c'est ce qui fait que les Italiens ou les Grecs ont récupéré, si vous voulez, tout le flux de migrants, puisque ce sont eux qui sont aux frontières de l'Europe. Donc, ce règlement de Dublin ne fonctionne plus, et c'est ça dont on va discuter dimanche, c'est comment effectivement adapter le règlement de Dublin pour que chacun prenne sa part. Et là, je pense que tous les pays seront pour ce type de système.
Seront pour, mais Éric Metou, quand même, on voit dedans, dans cette liste, on voit des Italiens, on voit des Autrichiens, les Bulgares. On sent que ça va être compliqué quand même de les convaincre pour ça.
Ouais, mais c'est des situations complètement différentes. C'est-à-dire que les Italiens, avec tout l'amour que je peux porter pour le nouveau gouvernement italien, on peut comprendre qu'ils aient voté pour l'extrême droite italienne, sachant qu'ils ont pris tout ce que l'Europe ne voulait pas prendre à leur place. Donc là, il y a une espèce de logique politique, et c'est une logique des peuples. Enfin, en tout cas, on les a laissés dans le caca, et c'est aujourd'hui ils réagissent. C'est pas complètement anormal. L'Autriche, la Hongrie, la Bulgarie, qui doit avoir deux migrants et demi maintenant.
La Bulgarie. La Bulgarie, c'est la frontière turque, c'était les premiers.
Mais ils s'arrêtent pas.
C'était ceux qui étaient les plus en avant justement de cette migration, et ils sont très très pauvres et incapables de gérer le taux de migrants.
On va mettre la Bulgarie de côté, mais en tout cas l'Autriche, qui est pas un pays pauvre, ou la Hongrie non plus.
Qui est le plus généreux, le plus social, le plus courageux? Celui qui, à un moment, dit on ne peut plus accueillir toute la population
mondiale. Ça ne marche pas, on ne peut plus accueillir.
Mais
ça,
le problème, c'est que ça ne sert à rien.
Au détriment des populations.
Comment les accueillir?
Et des populations des pays d'origine. Et au détriment des pays d'origine, car ce sont souvent les plus dynamiques, les plus malins qui veulent partir. Ou est-ce que ce sont ceux qui disent, non, il va falloir temporiser, maîtriser ces flux? et aider les pays d'origine.
Non, mais on peut dire qu'on va appuyer sur pause, on peut dire qu'on va dire à ces pauvres gens qui risquent leur vie au milieu de la Méditerranée que on va mettre un mur et que la politique européenne va empêcher qu'ils viennent.
On peut le dire.
Ça ne servira à rien.
Si, ça peut marcher, bien sûr.
Là, le réalisme,
un message,
c'est de savoir.
Cohérent.
Mais non, le message, il n'est pas cohérent, il n'arrive pas là-bas et ce n'est pas leur problème.
Bien sûr que si.
Allez, ça doit. On y reviendra, bien sûr, dans les informés de France Info. Dans un instant, on parlera à 80 km/h, on parlera Nicolas Hulot, Laurent Wauquiez. Oh là, mais c'est une pléiade qui arrive. Voilà, ça, c'est la suite des informés de France Info.
Ai Weiwei, Fan Tan, Omicem avec France Info. Acteur majeur de la scène artistique internationale, l'artiste chinois Ai Weiwei propose un voyage à travers le temps et son œuvre qu'il relie de manière inédite à son histoire familiale et à Marseille. 50 œuvres dont deux productions inédites, mises en parallèle avec 50 objets des collections du Mucem, révèlent son travail sous un jour nouveau. Ai Weiwei, Fan Tan, jusqu'au 12 novembre au Mucem à Marseille, en partenariat avec France Info. Restez connectés à France Info.
Toute l'actualité, des alertes, des vidéos avec l'application mobile
France Info. France Info Météo avec Aramis Auto, le spécialiste de la vente de voitures sur Internet. 2000 modèles et 30 marques à découvrir sur aramisauto.com et dans les agences Aramis Auto.
Et à Météo France, on retrouve Sébastien Léas.
Une perturbation arrivant par la Manche va s'infiltrer sur le pays demain. Cette perturbation sera très peu pluvieuse, mais les nuages seront compacts en matinée, de l'embouchure de la Loire à l'Île-de-France jusqu'aux Ardennes. À l'arrière de cette perturbation, sur le nord-ouest, le soleil sera de retour, mais dans une ambiance nettement plus fraîche et avec un vent sensible. Progressivement, la perturbation va glisser plus au sud et à l'est en se déchirant. Les éclaircies vont faire leur retour, devenant prédominantes demain après-midi, de la Touraine au Grand Est. Sur le reste du pays, la journée s'annonce ensoleillée. Dans le sud-ouest, il faudra attendre la dissipation des grisailles matinales pour retrouver le soleil. Sur le piémont pyrénéen, quelques bancs de nuages resteront tout de même tenaces l'après-midi. Sur le relief des Alpes du Sud, de la Corse et des Pyrénées, des développements nuageux sont attendus demain après-midi, pouvant donner des averses localement orageuses. Quelques orages isolés sont aussi à craindre en cours d'après-midi et en soirée en Aquitaine. Les températures de demain seront très contrastées avec 16 à 24 degrés des côtes de la Manche à la Champagne-Ardenne jusqu'au bord de Loire. Mais il va encore faire chaud sur le reste du pays avec 25 à 34 degrés.
France Info.
De quoi ouvrez l'info.
Et l'info à 20h30, c'est Emmanuel Langlois, bonsoir.
Bonsoir Jean-Mathieu, bonsoir à tous. La démission du responsable du SAMU de Strasbourg après les résultats de l'enquête de l'IGAS sur le décès fin décembre de Naomi Musenga. Il montre ses résultats que la procédure n'était pas conforme. L'assistante du SAMU n'a pas pris au sérieux l'appel de la jeune femme. Selon l'inspection générale des affaires sociales, donc, ses réponses non adaptées ont conduit à un retard de prise en charge de près de 2h20. Il y aura bien de nouvelles journées de grève en juillet et en août à la SNCF, malgré l'absence d'accord hier soir entre les quatre principaux syndicats. La CGT Cheminot, premier syndicat de l'entreprise, a en effet décidé de prolonger le mouvement qui devait s'arrêter au départ la semaine prochaine, mais pas de calendrier défini précisément pour ces nouveaux jours de grève. Le syndicat a toutefois déjà déposé une alarme sociale pour les 6 et 7 juillet auprès de la direction de la Société des chemins de fer, préalable indispensable avant de pouvoir faire grève. Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot.
La CGT appellera régulièrement à la grève pendant les mois de juillet et août, c'est ce que nous avons convenu. Les dates seront dévoilées au fur et à mesure en fonction de l'avancée ou non de négociations sérieuses sur les revendications des cheminots. Et donc maintenant la balle est dans le camp de la direction sur le, et du gouvernement sur les suites. Si ces négociations ont lieu, alors nous n'annoncerons pas les dates. Si par contre ces négociations n'ont pas lieu, alors nous annoncerons les dates au fur et à mesure que nous avons déterminées.
Les 6 et 7, vous savez qu'il y a quand même beaucoup de gens qui vont partir en vacances sans doute à ce moment-là. Ça ne peut pas faire a priori partie du calendrier.
Si, nous avons déposé aujourd'hui une alerte sociale auprès de la direction et je déconseille aux gens qui nous écoutent de prévoir un voyage en train les 6 et 7 juillet.
Laurent Brun, secrétaire général de la CGT Cheminot. Gérard Collomb a signé devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à la présomption d'innocence par l'avocat d'Ahmed Hamdam. L'Irakien a été récemment placé en détention pour crime de guerre. La responsable du service adoption de Seine-Maritime relevée de ses fonctions à titre conservatoire, c'est ce qu'annonce le conseil départemental. Interrogée sur France Bleu Normandie cette semaine, la fonctionnaire avait tenu des propos discriminatoires discriminatoire envers les homosexuels à propos de l'adoption. Un adolescent de 16 ans s'est tué cet après-midi en chutant d'une vingtaine de mètres d'un mur d'escalade à Beaufort en Savoie. Il faisait partie d'un groupe du club alpin d'Albertville. Le moniteur qui a également chuté dans un état critique à l'hôpital de Grenoble. Il est soupçonné d'avoir transmis au député Thierry Solaire des éléments sur une enquête pour fraude fiscale le concernant. L'ex-garde des Sceaux socialiste Jean-Jacques Urvoas a été mis en examen aujourd'hui par la Cour de justice de la République. Il est 20h33 sur France Info. Les informés, suite et fin.
Les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info jusqu'à 21h sur France Info, franceinfo.fr, sur les réseaux sociaux, avec le hashtag Les Informés, également sur le canal 27 de la TNT. Et eux, ils aiment l'actualité al dente. Alors si vous entendez des bruits bizarres, c'est pas votre poste qui marche mal, ce sont nos estomacs, voilà, tout simplement, parce qu'on a faim. Et ce soir, les informés de France Info reçoivent Aurélie Motta-Rivet, communicante, maître de conférence à Sciences Po, également Éric Métou de l'Express, l'entrepreneur Charles Becbédé et Audrey Goutard de la rédaction de France Télévisions. Tu sais mon petit gars, moi j'ai fait la bataille des 80 km/h, fallait fort. À l'époque, ça tapait dur, on était libre, on était beau. Alors oui, alors on n'est pas vraiment sûr que ce combat rentrera dans les livres d'histoire, enfin on l'espère pour les générations futures, mais il n'empêche, depuis l'annonce de passer à une limitation à 80 km/h sur les routes secondaires, les colères ne retombent pas. C'était le 9 janvier dernier. Le Premier ministre annonce cette mesure afin de baisser la mortalité sur le réseau routier français et depuis, la grogne s'est propagée à tout le pays, et malgré le fait que le décret soit passé le week-end dernier au journal officiel, que cela s'appliquera le 1er juillet, les associations ne désarment pas. La Ligue de défense des conducteurs et l'Automobile Club des avocats comptent déposer un recours en annulation devant le Conseil d'État. En cause, eh bien, le principe d'égalité qui sera atteint, car la loi touche surtout les zones rurales, et les élus maintenant embrayent, comme le député de Seine-Saint-Denis UDI, Jean-Christophe Lagarde.
Les décrets, ils sont pas débattus à l'Assemblée nationale. On n'a pas le droit de voter. Même député, on n'a pas le droit. Et donc le seul moyen que nous avons de défendre notre point de vue, c'est d'aller devant le Conseil d'État et d'expliquer qu'il y a là un excès de pouvoir et une erreur manifeste d'appréciation. On est tous d'accord pour lutter contre l'insécurité routière, pour réduire le nombre de morts sur les routes. Mais la méthode qui est employée est mauvaise. D'abord parce que l'étude l'expérimentation, elle peut pas être juste. L'expérimentation n'est pas allée à son terme.
Jean-Christophe Lagarde aujourd'hui sur LCI. Alors, il est arrivé aujourd'hui, il y a le gouvernement qui a lancé une campagne de communication, il y a des clips, des affiches, on peut le voir sur Internet, mais on sent tout de même que c'est une grogne, que c'est une colère qui dure encore et encore, je le disais, 9 janvier. C'était au 9 janvier et ça continue encore aujourd'hui.
Bah, on pourrait se dire effectivement qu'il y a beaucoup de bruit pour rien, que ce sujet finalement va être oublié. Enfin, on pourrait prendre plein d'exemples, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, la mise en place des radars, etc. Mais je crois que ce qui est intéressant de regarder ici, c'est pourquoi cette hystérie et pourquoi cette émotion sur ce sujet précis. Parce que je pense que les Français ont l'impression que c'est la France d'en haut qui décide pour la France d'en bas. Que finalement, c'est toujours les mêmes qui payent, si je caricature un peu. C'est un peu ça. Et qu'on a une forme de macronisme, on y revient, ou cette impression-là en tout cas, autoritaire et très centralisé, parce qu'effectivement à Paris, on n'a pas tellement de départemental et donc ça n'a pas d'impact pour nous. Et en fait, je pense que c'est cette frange de la population et des Français qui ont l'impression de payer pour tout le monde.
Oui, c'est ça. Alors, Charles Becbédé, c'est vrai, alors, c'était une histoire. Emmanuel Macron ne voulait pas, c'est Édouard Philippe qui a insisté, véritablement. Mais on sent qu'il y a ce sentiment, quand on se promène un peu partout dans les régions, que ça se décide à Paris et que là, ça se multiplie avec ça. Parce que vraiment, beaucoup de choses se décident à Paris, puisque c'est là où se trouvent les institutions de l'État.
Mais ça, est-ce que c'est pas un peu obsolète cette façon de faire à l'heure du numérique, on a pour vouloir tout décider de l'hôtel Matignon. La France, elle est diverse. Elle est riche et les départements, les régions sont très différentes les unes des autres. Là, vouloir tout décider. Alors, en plus, dans les voitures modernes, il y a des écrans et qui vous donnent la vitesse de limitation maximum, la vitesse limite maximum autorisée à chaque fois. Donc, pourquoi ne pas confier au préfet ou au département le soin de fixer sur les routes qui sont sans séparateur les limites en dessous de 90 quand il y a en effet des risques d'accident. Faire confiance finalement aux gens qui sont les plus proches du terrain de la population.
Alors après, vous savez souvent ce qu'on dit, au volant c'est toujours la faute de l'autre. C'est vrai, c'est souvent ça.
Il y a peut-être des routes où franchement, c'est à 60 qu'il faudrait rouler. Donc, c'est pourquoi vouloir tout décréter de l'hôtel Matignon rue de Varennes.
Et c'est pas un débat de sécurité routière. Je crois que c'est pas ça le sujet.
Dire que c'est du parisianisme, je trouve ça assez injuste, parce que je vous rappelle quand même que les premiers à avoir pâti de ce type de règlement, où on fait baisser la limitation de vitesse, ce sont les Parisiens. Il y a une dizaine d'années, on est passé, moi je roulais tranquillement à 50 km/h dans Paris, je suis passé à 30 km/h. Donc nous avons été les premiers, dans certaines zones, nous avons été les premiers à en pâtir. Du coup, ça a joué sur l'accidentogénéité. Donc, et effectivement, il y a eu des répercussions sur le nombre d'accidents et ça a été bénéfique pour les Parisiens. Donc, on peut imaginer que en région, ce soit le cas aussi. C'est vrai que on peut dire que c'est un problème de parisianisme, etc. Mais enfin, c'est aussi une affaire de sécurité pour les gens qui conduisent. Et c'est, pardon, j'ajoute juste en revanche, je suis en empathie avec ceux qui font jusqu'à 50 km par jour sur les routes de campagne. C'est vrai que c'est une galère de devoir diminuer sa vitesse. C'est vrai que c'est une galère de devoir anticiper les radars. Mais bon, ça sauve des vies,
bien
c'est
sûr.
Vrai.
Et alors, il faut dire aussi, ça fait partie aussi d'une colère, parfois dans certains territoires, où il y a un maillage de bus qui est très mal fait aussi. Éric Métou, c'est aussi à part de là aussi.
Je vois pas le rapport.
On est obligé de prendre la voiture.
Non, mais on a fait des calculs sur ce que ça coûtait en termes de temps donc perdu de passer de 90 à 80 km/h. Je crois que c'est grosso modo sur 100 km, c'est 5 minutes. Donc faut arrêter de dire.
Non, mais c'est psychologique.
Ok, c'est pas pour ça qu'il n'y a pas des problèmes de réseau de bus dans les territoires. Mais enfin, je vois pas le rapport avec les 80 km/h. Par ailleurs, juste laisser la responsabilité de la sécurité routière à des gens comme Jean-Christophe Lagarde. Oui. Moi, je serais mort de trouille, quoi. Je veux dire, c'est quoi? C'est de la,
bon. On va dire. L'intervention
que j'ai entendue là, c'est de la lâcheté, c'est de l'électoralisme et du clientélisme. Et c'est exactement ça, les élus locaux aujourd'hui sur ce sujet-là. Sur ce sujet-là. Ce que je veux dire simplement, moi, j'ai un seul chiffre. Parce que c'est pas des chiffres en l'air, on peut imaginer. Je veux dire, de passer de 90 à 80 km/h, ça va sauver 400 vies. Et ça va sauver 400 vies et 400 morts sur la route, c'est 7 fois plus de blessés. Donc 4 fois 7, 28, oui. Quelque chose comme ça. Donc 2800 blessés par an. Des blessés sur la route, c'est des gens qui sont lourdement handicapés, c'est des gens qui vont coûter à la société, et c'est des gens qui vont vivre une vie abominable. Donc moi, je veux dire, le débat, il n'existe même pas. Il n'existe même pas. Ces deux chiffres-là,
et pourtant,
ça suffit à le clore.
Et pourtant, vous entendez une grogne. Peut-être qu'elle est là, mais on parlait tout à l'heure de l'égoïsme.
On parlait tout à l'heure. Pour moi, l'attitude de l'Europe par rapport aux migrants, c'est de l'égoïsme obscène. L'attitude des Français, et pas seulement des élus, par rapport aux 80 km/h, c'est de l'égoïsme obscène.
Lorsqu'on a décrété que dans les bureaux, par exemple, on ne fumerait plus, moi je me souviens de l'époque où on fumait, etc., les terrasses de café, tout ça. Voilà, au début,
il y a beaucoup d'émotions à chaque fois.
Voilà, non mais c'est les gens rouspètent et c'est normal, on leur enlève quelque chose. Mais effectivement, je suis d'accord avec Eric, c'est pour un vrai gain.
On va revenir, parce qu'on va là, on doit passer au titre de l'info à 20h40, Stéphane Milhomme.
Avec la démission du responsable du SAMU de Strasbourg, quelques heures après la publication de l'enquête administrative, suite au décès de Naomi Muzenga, la jeune femme est morte en décembre dernier, faute d'avoir été prise en charge à temps. L'enquête de l'IGAS confirme qu'en ne prenant pas au sérieux son appel, l'opératrice a fait perdre du temps au secours. Jean-Jacques Urvoas est soupçonné d'avoir transmis au député Thierry Solaire des informations sur une enquête pour fraude fiscale le concernant. L'ancien ministre de la Justice est mis en examen pour violation du secret de l'enquête par la Cour de justice de la République. Une majorité de Français est favorable à des alternatives à la prison pour les peines de moins de 5 ans. Les enseignements d'un sondage Harris Interactive pour le barreau de Paris que vous révèle France Info. 57% des personnes interrogées veulent des prisons ouvertes, c'est-à-dire où les détenus pourraient circuler librement en journée, mais avec des projets de réinsertion et de responsabilisation. Le début de la mission française en Espagne auprès des réfugiés de l'Aquarius. Les agents de l'OFPRA ont commencé les entretiens dans le port de Valence. La France a fait savoir dès la semaine dernière qu'elle était prête à accueillir certains des 630 réfugiés pouvant répondre au statut justement de réfugiés. Et puis un album d'Astérix sortira à Noël, Le secret de la potion magique. Ce ne sera pas une aventure à proprement parler, mais un album illustré par Fred Tarin qui accompagnera la sortie du film prévue pour le 5 décembre. Le scénario, comment trouver un successeur au druide Panoramix et transmettre la recette de la potion magique.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info, encore un mot à propos de ces 80 km/h. Le décret est passé ce week-end, la campagne de communication a débuté aujourd'hui, ça rentrera en action le 1er juillet dernier. Charles Beguédé,
vous vouliez répondre à Eric aussi, parce qu'il ne s'agit pas de comparer la décision qui est prise, le décret là, qui consiste à réduire à 80 km/h partout et ne rien faire. Il s'agit de regarder par exemple ce que propose Vincent Dessert, qui est député LR du Cantal, qui dit... décentralisons et confions la responsabilité au préfet de dire alors, si on baisse à 80 ou à 70 ou à 60,
que vous avez,
là où c'est dangereux.
Vous avez
donc on ne fait pas rien. Donc les 300 morts, on y échappera.
Est-ce que vous avez lu le JDD ce week-end? Il y a un ensemble de cartes de régions où toutes où sont indiquées de manière très claire en rouge les routes accidentogènes qui sont exactement celles qui sont concernées par la limitation de vitesse de 90 à 80 km/h. Ben, je veux dire les préfets, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire la vitesse sur ces routes-là qui sont exactement celles qui sont concernées aujourd'hui
par ça. Mais il faut regarder la carte plus précisément.
Alors, voilà,
Aurélie,
moi, je crois que ce qui est intéressant, c'est la méthode. Enfin, tout le monde est d'accord, on est tous d'accord.
Mais il n'y a pas d'autre méthode.
Mais il y aurait pu avoir une forme d'adaptation par les élus locaux. Et je crois que ce que ça met en lumière, c'est
toujours le problème du territoire.
La méthode très autoritaire, au fond, qui est employée, très descendante, paradoxalement, puisque Emmanuel Macron a plutôt promu le bottom-up, je disais tout à l'heure. Ouais. Et donc, c'est ça, à mon avis, qui se joue. C'est finalement la différence des cultures entre la partie très centralisée et très décentralisée et des élus locaux qui se sentent dépossédés d'une certaine manière.
Alors, un mot de politique, parce qu'on a beaucoup parlé de voiture aujourd'hui, mais c'est bizarre comme parfois ça se clash, l'actualité. On accuse souvent les voitures et les particules fines émises par ces voitures de polluer énormément. Et bien ça tombe bien, puisque désormais la lutte contre le réchauffement climatique et la pollution sera inscrite donc dès l'article 1 de la Constitution. Ça a été annoncé aujourd'hui en déplacement en Bretagne par Nicolas Hulot. Édouard Philippe, au départ, n'était pas très très chaud, puisque lui il voulait que ça soit intégré dans l'article 34. Mais là, que ça soit dans l'article 1, Audrey Goutard, ça y est, Nicolas Hulot peut enfin avoir finalement son petit cadeau.
C'est pas un petit cadeau, attendez, c'est très important.
Il y a un geste envers Nicolas Hulot.
C'est un geste, et ce n'est pas qu'un geste symbolique, parce que c'est ce qui va permettre d'influer sur certaines négociations. C'est quand même un geste important. Et le positionner en numéro 1, ça donne un élan, si vous voulez, à de futures réglementations.
Vous pensez que ça permet de peser, véritablement, à partir du moment où c'est inscrit?
Oui, bien sûr. Par exemple, regardez la récente loi Hulot qui mettait fin à la recherche et à l'exploitation des hydrocarbures. Effectivement, à chaque étape de la rédaction du projet, les rédacteurs étaient arrêtés parce qu'effectivement, ils se confrontaient à des risques d'anticonstitutionnalité, car la liberté d'entreprendre inscrite dans la loi, etc., empêchait, si vous voulez, d'aller plus loin. À partir du moment où c'est dans la Constitution... Eh bien, écoutez, ça permet effectivement de progresser, de faire progresser des mesures qui sont ambitieuses et qui sont indispensables, évidemment.
Alors, peut-être que je me trompe, mais il y en avait un qui proposait ça pendant la campagne présidentielle, c'était Jean-Luc Mélenchon. C'est bizarre, non? C'était marrant. Il y a des choses comme ça qui se passent entre le programme de Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, finalement, Aurélie Motard.
Je crois que c'est un acte de communication qui me paraît très cohérent. Peut-être, certes, un peu excessif, l'article 1 versus 34.
Oui, c'est ça.
Effectivement, peut-être un peu excessif, mais qui me paraît très justifié vu le rôle pionnier que la France a joué sur ces sujets, et en particulier la lutte contre le changement climatique, avec les accords de Paris, il ne faut pas l'oublier, la COP21, le One Planet Summit, on a en fait une diplomatie qui est très en avance de phase sur ces sujets, donc je pense que c'est une juste reconnaissance de ça. Ça me paraît très cohérent.
Est-ce que vous pensez qu'il y a un petit côté pour rattraper Nicolas Hulot derrière? Est-ce que voilà, il y a aussi, je ne disais pas un cadeau, c'est un élément important.
Non, je ne crois pas que ce soit un cadeau, je crois qu'il y a un engagement très sincère pour le coup du président de la République sur les enjeux multilatéraux et la lutte contre le changement climatique. Et il faut reconnaître qu'on a inventé une nouvelle diplomatie en France, je pense qu'il faut le dire, en termes de méthode, qui est une diplomatie collaborative qui a commencé à associer les entreprises, la société civile, on l'a très bien fait sur le climat, et finalement ce qu'on fait là, on pourrait le faire sur tous les objectifs du développement durable, les 17, que ce soit sur l'éducation, sur la santé, et donc je pense que pour le coup on a un vrai rôle pionnier dans le monde sur ce sujet.
Charles Beigbeder, le fait d'inscrire donc la lutte contre le réchauffement climatique dès l'article 1 de la Constitution française?
Les bras m'en tombent, franchement là je suis abasourdi.
Pourquoi?
Non mais en plus il y avait déjà le principe de précaution, il y a énormément de redondance déjà dans nos textes fondateurs. Il y avait déjà tout ça. Donc là, le rajouter dans l'article 1, je rappelle quand même l'article 1, la France est une république, une indivisible. Oui. On a déjà rajouté laïque, démocratique et sociale. Et alors on va rajouter quoi, hein, qu'il faut défendre
La lutte contre le réchauffement climatique.
Le réchauffement climatique. Non mais c'est grotesque. Je vous dis, l'article 1, c'est sacré. si on touche à l'article 1, alors il faut un référendum, il faut 90% des Français soient d'accord. C'est comme l'article je ne sais combien qui dit que le drapeau de la France, il est tricolore bleu, blanc, rouge. C'est comme l'article qui dit que la langue de la République, c'est le français. On va quand même pas polluer ces articles-là avec des histoires qui sont déjà dans les textes.
Le terme est bien choisi.
Oui, Éric Métou, voilà. Est-ce que c'est tout de même, alors, polluer, vous dites, mais est-ce que c'est une manière aussi de montrer à quel point cette lutte, elle est vitale aussi pour...
C'est un symbole pour politique. Et c'est pas simplement un symbole politique pour éviter que Hulot ne soit plus là à l'automne. C'est une vraie déclaration d'intention. Et ça change quand même le regard qu'on posait sur le gouvernement Philippe et le quinquennat Macron en termes d'écologie, où jusqu'à présent, il a quand même pas fait grand-chose, à part arrêter Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est une façon de reprendre la main. Je pense que ça, c'est extrêmement important. Après, moi, j'ai un gros bémol, c'est que le changement de la Constitution, le changement constitutionnel... Ça va arriver quand, quoi? C'est
alors,
compliqué.
9 juillet, alors ça serait au mois de juillet.
Ça va commencer à discuter. Non, mais après le processus, il faut quand même convaincre les deux chambres. Visiblement, tout le monde n'est pas d'accord. Il va falloir une grosse majorité. Ça risque de prendre du temps. Et je pense pas que Macron prenne le risque d'aller au référendum sur la question constitutionnelle. Enfin, ça serait un peu suicidaire. Et surtout, pour aller faire passer un article comme celui-là.
Oui, Audrey Goutard.
Non, je voudrais revenir sur l'importance de le placer à cet endroit-là et dans la Constitution, pardon. Mais quand... Vous avez c'est un rapport de force énorme. Lorsque vous avez d'un côté Monsanto, les lobbies miniers, la puissance américaine qui pousse actuellement effectivement vers du tout polluant, si vous n'avez pas en face, effectivement, si vous n'êtes pas fort en face d'un point de vue politique et au niveau des lois et de la Constitution, et que le Conseil constitutionnel ne peut pas s'appuyer sur des points aussi importants que c'est dans l'article 1, donc du coup, la loi qui a essayé de faire passer tel lobbyiste, etc., eh bien, on la retoque, eh bien, voilà, ça va permettre de gagner certains rapports de force qu'on ne gagne pas pour le moment,
Mais justement, c'est que vous avez empêché tous les projets, par exemple, on a besoin si on veut du renouvelable, ça crée de l'intermittence et on a aussi besoin de centrales électriques à gaz, qui sont beaucoup moins polluantes que les centrales charbon. Bien, si vous avez cet article, si vous renforcez l'article 1...
Ça équilibre le rapport de force.
Mais non, mais toutes les associations qui seront contre ces projets gagneront systématiquement. Il n'y aura plus de projets.
Mais c'est pas vrai. C'est un équilibre des forces pour l'instant.
Si c'est quelques-unes qui sont faites. J'en ai construit deux.
Oui, mais je ne parle pas des usines à gaz, si j'ose dire. Je veux dire, Notre-Dame-des-Landes, c'est quand même un projet qui ne s'est jamais fait et il n'y a pas eu besoin qu'il y ait un article 1 de la Constitution qui empêchait le réchauffement climatique, enfin qui combattait le réchauffement climatique.
Aurélie Motard, arrivé pour vous, voilà, est-ce que ça aujourd'hui il y a du symbole, en effet ce que disait Éric mais tout à l'heure, après il y a des longues discussions, très longues discussions, vous pensez que ça passera malgré le Sénat, l'Assemblée nationale, on sait très bien qu'on a eu quelques surprises récemment, comme le glyphosate ou des choses comme ça.
Je crois qu'il y a une grande maturité des Français sur ce sujet, et je suis pas certaine que ça règle le sujet au sens, parce que le sujet évidemment n'est pas national, il est international, donc je suis pas sûre que ça règle en termes d'efficacité le sujet, mais je crois que la déclaration d'intention est très forte, et je crois que les Français sont très mûrs sur ce sujet. Oui.
Allez, dans un instant on parlera d'un sondage Odoxa que nous avons présenté à propos de Laurent Wauquiez et Virginie Calmette. Vous savez, c'est un petit peu notre telenovelas à nous depuis le week-end dernier. On en parle dans un instant. L'info à 20h50. Stéphane Milhomme.
Gérard Collomb a signé devant le tribunal de grande instance de Paris pour atteinte à la présomption d'innocence. La procédure est initiée par l'avocat de l'Irakien Ahmed Hamdam. Ce suspect a été récemment placé en détention provisoire pour crime de guerre, soupçonné d'être un haut dirigeant de Daesh. L'audience a été fixée au 6 juillet. Salah Abdeslam, lui, a quitté l'hôpital de Corbeil-Essonnes. Le dernier survivant des attentats de novembre 2015 a été transféré à l'hôpital parisien de la Pitié-Salpêtrière, opéré ce matin de l'appendicite. Opération sous très haute protection policière. Je déconseille aux gens de prévoir un voyage en train les 6 et 7 juillet. Laurent Brun prévient ce soir. Le secrétaire général de la CGT Cheminot confirme que le syndicat appellera régulièrement à la grève en juillet et en août contre la réforme du ferroviaire. Il n'exclut donc pas de choisir des jours de départ en vacances. Donald Trump annonce qu'il va signer un texte pour éviter la séparation des familles face à l'immigration illégale. Sa politique a déjà conduit à la séparation de plus de 2000 enfants. enfants mexicains de leurs parents. Avant cette annonce, cet après-midi, la Chambre des représentants avançait qu'elle voterait demain pour stopper ces séparations. Instagram annonce ce soir avoir dépassé le milliard d'utilisateurs. L'application du groupe Facebook permet depuis 2010 aux utilisateurs de mettre en ligne des photos et nouveautés d'ici quelques temps, des publications vidéo qui pourront atteindre une heure. Le mondial de foot avec actuellement Iran-Espagne, c'est toujours 0-0 à la fin de cette première mi-temps.
France Info.
20h, 21h, les informés, Jean-Mathieu Pernin.
Les informés de France Info. Alors vous savez qu'il y a des choses parfois énervantes dans les histoires de couple, c'est quand le couple se sépare et que d'autres personnes donnent leurs avis sur ce sujet. Et bien là, c'est ce qui s'est passé avec Laurent et Virginie. Voilà, alors Laurent Wauquiez et Virginie Calmels, vous connaissez l'histoire. Dimanche, Laurent Wauquiez acte la rupture, hein, puisque Virginie Calmels n'était pas d'accord avec un tract dit identitaire des Républicains. Mardi, elle a voulu récupérer ses affaires. Et bien ses affaires l'attendaient dans un petit carton. Voilà, rue de Vaugirard, chez les Républicains. Et puis Laurent l'a vu, c'est éloigné à travers la fenêtre, voilà, en disant c'est la vie. Voilà, c'est comme ça. Hein. Mais aujourd'hui, les Français se sont exprimés sur cette question et eh bien ils sont 57% des personnes interrogées qui estiment que le président des Républicains a eu tort de limoger Virginie Calmels. Alors, Charles Becbédé, quand on voit cette histoire, on se dit... Et à quoi ça a servi finalement psychodrame depuis le début? Est-ce que ça sert vraiment à clarifier ou de nouveau de créer une polémique au sein de la droite française?
Je note d'abord que les Français sont pour la fidélité.
Oui.
Et je pense qu'ils déplorent, ils regrettent quand une équipe se sépare. C'est vrai que c'est triste, c'est jamais bon que les personnes en qui on avait confiance doivent s'éloigner.
Alors après, mais là,
il n'y avait pas trop le choix. Il n'y avait pas trop le choix. À partir du moment où il y a Virginie Calmels dit qu'il y a une autre ligne. Ben non, il n'y a pas d'autre ligne. Quand on est dans une direction générale, que ce soit dans une entreprise ou dans un parti politique, c'est pareil. Il y a un moment, il y a une ligne. Et puis ensuite, on soutient la ligne si on fait partie de la direction générale. Si après, on est militant, ok, on peut avoir des opinions différentes.
Vous pensez qu'elle joue un jeu personnel?
Donc là, je pense que souvent, ben c'est triste, mais souvent, à droite, dans la droite de gouvernement en tout cas, il y a des personnalités qui sont parfois peut-être un petit peu manipulées ou entraînées par les médias, mais ce n'est pas une accusation contre vous.
Non, mais...
Et puis, elle se laisse aller...
Je ne pensais pas qu'elle peut agir toute seule aussi.
Et finalement, elle se laisse un peu instrumentaliser et elle se retrouve à un moment dans un corner. On ne peut pas dire qu'il y a deux lignes dans un même parti politique.
Aurélie Motarivé.
Je crois que les Français sont attentifs à l'humanité, effectivement, c'est ce que vous disiez, et surtout, je pense à la sincérité et l'authenticité. Et je crois que le problème qu'a Laurent Wauquiez en termes de communication, c'est pas un jugement de ma part, c'est une présomption permanente d'insincérité. Et finalement, c'est ce qu'on a vu avec la séquence, on se souvient de l'EM Lyon, où il disait lui-même qu'il avait un double langage, et je crois que c'est en fait ce qu'il poursuit en permanence.
Oui, Audrey Goutard, sur ce sondage, bon, alors finalement que les Français jugent en effet qu'il a eu tort de limoger Virginie Calmels, qui est jupéiste hein, aussi, faut le signaler, mais les sondages s'enchaînent, ils ne sont pas très bons hein, pour Laurent Wauquiez sur son image, sur ce qu'il représente, on sent qu'en ce moment, c'est pas terrible.
Oui, j'imagine que ses attachés de presse et ses... Et son entourage doit s'arracher les cheveux à essayer de trouver des solutions pour le faire. Parce qu'effectivement, vous avez raison, c'est toujours... C'est un problème de posture, en fait. C'est étonnant, les gens n'arrivent pas à sentir, et c'est ce qui ressort en tout cas des sondages. Donc, en même temps, c'est vrai que pour les Français, ça doit être... de ressembler à des guerres de palais et être assez incompréhensible lorsqu'on a une numéro 2 de s'en débarrasser de cette manière-là. Voilà.
Éric Métou, est-ce que ça prouve quelque chose? Est-ce que ça veut dire que Laurent Wauquiez clarifie sa ligne, tout simplement?
Oui, voilà, c'est tout.
Ouais, c'est ça.
Enfin, elle n'est pas dans un corner, elle était dans un corner dès le départ. Donc, Virginie Calmels, c'est la numéro 2 de Juppé à Bordeaux. On sait que Juppé et Wauquiez ça matche pas et je vois pas pourquoi ça aurait matché avec Calmels, donc c'était un divorce annoncé en fait.
Mais le remplacer par Jean Leonetti qui est lui aussi juppéiste et
oui, mais plus calme hein. plus contrôlable, c'est un gentil Leonetti
que beaucoup de gens avaient oublié.
Mais après sur le fond en dehors, parce que on s'en fout un peu de savoir que 57% des Français trouvent que c'est pas bien qu'il est non mais c'est très bien,
excusez-moi,
mais
c'est pas mal mais de savoir ce qu'est pour
ces Français. Mais on s'en moque un peu. Wauquiez, il s'intéresse pas tellement aux 57% des Français qui. Wauquiez, il s'intéresse aux militants les Républicains. Et c'est ça qui compte, lui, c'est de maintenir sa ligne, de consolider sa base politique, et c'est ce qu'il vient de faire. Et je pense que politiquement, c'est plutôt intelligent.
Et alors, c'est intelligent, mais en effet, mais Charles Bec-Bédé, on a l'impression qu'aujourd'hui, avoir cette ligne de Laurent Wauquiez, plutôt dure, on peut comprendre, parce que pendant les primaires, il fallait séduire les militants, mais aujourd'hui, on se dit, bah tiens, il peut s'adresser à un plus grand nombre que son propre parti. Est-ce que c'est pas ça le but? Et est-ce que vous pensez pas que là, il se trompe, Laurent Wauquiez, que ça ne marche pas, en fait, tout simplement?
D'abord, il vient d'arriver. Donc ça fait à peine 6 mois, il est en phase de reconstruction. Ce parti a connu une défaite catastrophique l'année dernière. La droite est un champ de ruines, donc elle se reconstruit. Ça prend du temps. Là, il y avait un problème de direction générale, donc c'est réglé. Ça clarifie. Et il va continuer à travailler. Et son objectif, il me paraît clair, hein, c'est de siphonner l'autre grand parti plus à droite.
Vous connaissez sa position sur l'Europe, par exemple?
C'est de faire venir les électeurs qui se sont portés sur Marine Le Pen.
Vous connaissez sa position sur l'Europe ou pas?
Je ne suis pas sûr que ça va marcher, mais en tout cas, c'est ça son objectif.
Très bien, on n'aura pas la position sur l'Europe, en tout cas. Bon, merci beaucoup, en tout cas. Merci beaucoup, Aurélie Motarivé, les informés de France Info, ça doit se terminer. Merci, Charles Bec-Bédé. Merci beaucoup, Audrey Goutard. La ligne de l'Express, Eric Métou, cette semaine.
Les difficultés d'Emmanuel Macron. Et sur l'application de l'Express, ce soir, un papier sur la piscine qu'il est en train de faire construire à Brégançon.
Tout à fait, à Brégançon, exactement.